Le message contenu dans cette cassette a été enregistré le 16 juin 1991 au cours d'une campagne organisée par la Ligue pour la lecture de la Bible ayant pour thème les 4 R du réveil personnel ou du vide à la plénitude. L'orateur en était le pasteur Maurice Decker, secrétaire général de la Fédération évangélique de France, et le titre de ce 4e message était « Une manœuvre stratégique ».
Chers amis, nous voulons ouvrir notre Bible. Ouvrir notre Bible dans le livre de Ruth, toujours, bien entendu, au chapitre 1er, pour relire les 5 premiers versets, mais nous augmenterons la lecture de 2 versets. Ruth, chapitre 1er, versets 1 à 7. Et nous y ajouterons les versets 19 à 22. Ruth, chapitre 1er, versets 1 à 7 et 19 à 22. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kilion moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Verset 19. Naomi et Ruth firent ensemble voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient « Cela, Naomi ?» Elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi ?» après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Nous y ajoutons un second texte dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, nous lisons les versets 8 à 14. Éphésiens 5, versets 8 à 14. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Nous arrivons donc ce soir à notre avant-dernière étape, sans avoir considéré jusqu'ici l'un ou l'autre des quatre R du réveil. De quoi nous rendre impatients. Mais nous avons remarqué, pour ceux et celles qui ont participé à ces précédentes soirées, qu'il était important de préparer le chemin du réveil personnel. Nous avons envisagé essentiellement, durant ces soirées, le problème de la vie rétrograde. Qu'est-ce qu'être rétrograde dans la Bible? Et nous avons pu le faire parce que le début de ce livre de Ruth nous montre de manière tellement suggestive, impressionnante, interpellante, ce qu'est la vie rétrograde, au travers notamment de ces quatre dimensions d'un territoire stratégique à ne céder à la puissance des ténèbres à aucun prix. Que l'ennemi convoite en permanence. Et nous avons remarqué comment ce fut là le drame d'Élimélec et des siens dans un choix stratégique, mais hélas dans le mauvais sens, qui leur fit quitter ces quatre dimensions de territoire sacré. Bethléem, qui annonce la personne de Jésus-Christ, du Christ qui suffit pleinement. Bethléem, Ephrata. Ephrata, fécondité, car nous trouvons notre plénitude de satisfaction et notre fécondité dans notre relation avec le Christ mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. Judas, la terre de la louange, de la vie de prière. Et enfin, Israël, la terre du combat. La terre du combat dans plusieurs domaines. Dans le domaine tout d'abord de notre relation avec Dieu par les Écritures, la place qu'occupent les Écritures dans ma vie. Et puis aussi Israël, la terre de l'Assemblée de l'Éternel, nous avons évoqué pour nous l'Église locale. Et nous avons donc développé longuement toutes ces dimensions. Et nous entrons donc ce soir dans cet examen attentif du processus du réveil personnel dans la vie, hélas, du seul survivant de la famille, à savoir Naomi. Caractéristique fondamentale du réveil, telle qu'elle se retrouve partout dans les Écritures. Voilà ce qui nous intéresse. Voilà ce qui nous concerne, vous et moi. Et nous avons souligné dans notre conclusion qu'il n'y avait pas de raccourci pour vivre dans notre vie personnelle ce message tellement fort dans les Écritures du réveil. Quatre R étroitement interdépendants, nous sommes obligés de les cloisonner tout simplement pour des raisons purement pédagogiques de manière à bien comprendre l'importance du message, mais nous ferons systématiquement le lien entre chacun de ces R du réveil, chacune de ces quatre roues motrices de la marche en avant du disciple de Christ qui a stagné et qui repartit hélas en arrière. Quel est le premier de ces quatre R du réveil? Il apparaît comme en filigrane, mais très fortement, en tout cas à deux reprises dans le chapitre premier du livre de Ruth. Tout d'abord dans cette plaidoirie de Naomi, que nous ne pouvons pas développer ici ce soir, mais lorsqu'elle dit au verset 13 « Attendriez-vous pour cela que les fils que je pourrait avoir et grandit. Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et puis ensuite, à leur arrivée à l'entrée de Bethléem, il est dit donc que toute la ville, littéralement, fut en ébullition à leur sujet. Toutes les femmes disaient « Est-ce là Naomi ?» Il faut voir sa réaction. Elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, amère, car Shaddai m'a rendu amère à l'extrême. Comblé, j'étais parti, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que Shaddai m'a affligé ?» Reconnaître son état. Reconnaître son état. Naomi aurait pu sciemment choisir une autre stratégie. Elle arrivait de Moab. Elle y avait passé au moins 10 années de sa vie. Il y avait dans le regard et les you-you de ces femmes toute une interrogation. Et elle aurait pu dire « Ah, vous savez, j'ai une magnifique série de diapositives à vous proposer sur la terre de Moab. Ah, ce voyage, c'était extraordinaire. Vous ne savez pas ce que vous avez manqué jusqu'ici. » C'était tentant. Naomi ne cherche pas de faux semblants. Elle refuse le masque du bonheur apparent. Elle avoue ouvertement devant Dieu et devant les hommes son vide, son échec, son amertume, son sentiment de culpabilité, son recul, son besoin d'une nouvelle rencontre vivifiante avec Dieu. Il est un proverbe arabe qui dit ceci: « Bien des gens sont comme les horloges qui indique une heure et en sonne une autre. » Et si vous avez lu le petit livre remarquable de cet humoriste Pierre Daninos, qui s'intitule « Le 36e dessous », tout simplement parce que cet humoriste, dans ce livre, raconte sa dépression. Et il dit à un moment, dans ce livre très intéressant, « Ce qui, sans doute, m'afflige le plus, c'est la différence, l'abîme entre l'homme tel que les gens se le représentent, l'humoriste, et celui que je suis réellement. J'en souffre surtout lorsqu'à la fin d'une journée comme celle-ci, je me prends par la peau du cou pour sortir. » Pour éviter de livrer au monde ma mine sinistre, je mets le masque. J'essaie devant la glace un rictus qui plisse mon faciès, cartonné comme si on l'avait plongé dans un bain d'amidon. Avant d'aller dans le beau monde, je vais éprouver mon masque chez le pharmacien. J'entre, la mort dans l'âme, avec mon rictus, et m'efforce de paraître l'homme le plus gai du monde pour demander du savon à barbe. Alors la suite du récit raconte comment l'humoriste dialogue avec le pharmacien, qui lui dit « Oh mais, monsieur Daninos, vous devez être l'homme le plus heureux du monde !» Et Daninos qui se dit en lui-même « Oh, le masque tient bon !» Et finalement, il rentre avec son savon à barbe et il continue son récit « Je reviens chez moi dans la forêt, ôte mon masque, me regarde dans la glace, me demande si les gens me voient vraiment tel quel, m'éteint, retourne à ma table. » Le masque. Vous savez que nous sommes, vous et moi, cela va de soi, des personnes. Et nous aimons ce terme « personne ». Qui dit personne, dit histoire, dit identité, dit racine, dit personnalité. Et nous souffrons parce que nous sommes dans un monde qui gomme ces notions. Mais ce que souvent nous ne savons pas, c'est que le mot latin persona, qui a pris un sens très noble, avant d'avoir ce sens dans la langue étrusque, signifiait tout à fait autre chose, puisqu'il signifiait très exactement masque. C'était le masque dont se couvraient les acteurs du théâtre romain et par extension le rôle qu'ils jouaient. C'était l'équivalent de l'hypocrite chez les Grecs. C'est intéressant. Parce qu'en réalité, si le terme « personne » a pris un autre sens, nous devrions quand même réaliser qu'il n'a pas perdu le premier. Et que trop souvent, nos vies sont une vaste comédie. Tirer le rideau, la farce est jouée. Vous savez que ce furent les derniers mots de Rabelais. Tirer le rideau, la farce est jouée. Et dans nos pays en particulier, dans nos pays d'abondance matérielle, que de vernis dans ce domaine. Et que de vernis dans l'Église, que de vernis facile dans nos vies. Parce que nous n'aimons pas reconnaître. Que de peine nous avons, vous et moi, à reconnaître. Il n'y a pas de réveil authentique sans que je reconnaisse. C'est là, d'ailleurs, la première démarche du fils prodigue dans Luc 15, 17. « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Il a fallu qu'il commence par là. Que déjà, devant Dieu, dans son cœur, ils reconnaissent son état. Un roi 8:38, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies. Et alors là, Dieu a pris soin de nous indiquer pourquoi nous devons reconnaître. Nous devons reconnaître parce que Dieu connaît. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Dieu connaît. Dieu sait. Dieu sait toutes choses. Et pourtant, nous ne résistons pas à ce piège qui consiste à croire que nous pouvons lui cacher. Et bien entendu, nous avons aussi beaucoup de problèmes pour reconnaître devant les autres ce que nous sommes en réalité. Dans le livre du prophète Osée que nous examinons en parallèle au livre de Ruth, nous avons des textes très éloquents à cet égard, qui nous indique que notre plus grand ennemi, mon plus grand ennemi, c'est l'orgueil. Nous préférons la gloire des hommes à celle de Dieu. Dans Osée 5, versets 3 à 5, Dieu parle. Et il dit, moi je connais Éphraïm. Vous voyez cette unité des Écritures, une fois de plus. Moi, je connais Éphraïm, et Israël ne m'est pas caché. Car maintenant, Éphraïm, tu t'es prostitué, Israël est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Et s'il y a dans le livre d'Osée, parmi d'autres, un texte qui est bouleversant, c'est bien celui-ci. Cette persistance opiniâtre dans le refus d'accepter le verdict de Dieu sur moi. Vous savez qu'hélas, très peu de temps après ce message du prophète Osée, effectivement, le royaume du Nord a été déporté en Assyrie. Osée a vu s'accomplir les menaces qu'il devait proférer de la part de l'Éternel. Il n'y a plus eu de prophète après lui. Parce que Israël avait été tellement opiniâtre dans ce refus de reconnaître tout ce que les prophètes lui avaient dit, se succédant les uns après les autres, qu'il s'était endurci, qu'un esprit, une mentalité de prostitution s'était développée. Et l'orgueil était devenu tellement grand qu'il aveuglait totalement ce peuple. Osée chapitre 7, versets 8 à 10. Éphraïm, fécond, vous vous souvenez, Éphraïm se confond avec les peuples. Vous avez là un tableau descriptif du rétrograde. Éphraïm se confond avec les peuples. Le rétrograde est le disciple de Jésus-Christ qui se confond avec son milieu ambiant. Et comme le disait Martin Luther King, au lieu d'être un thermostat qui bouge, qui transforme la température de la société, il n'est qu'un thermomètre qui devient le reflet de cette température. Éphraïm est devenu un gâteau qui n'a pas été retourné. Je suppose que ce week-end, certaines cuisinières ont peut-être expérimenté des surprises douloureuses. Ah, ces beaux gâteaux, hein ? Vous regardez en surface, c'est dodu et doré. Ça apparaît. Et puis vous sortez, vous vous apprêtez à démouler, par exemple, et ça colle. Et alors on se met à traficoter par en dessous, n'est-ce pas, pour décoller tout ça. Que c'est désagréable. Alors parfois on s'arrange, on gratte un peu, hein, en dessous, ce qui est le plus noir. Ah, mais au-dessus c'est très joli, très appétissant. Éphraïm est devenu un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers dévorent sa force. C'est cela le rétrograde. Il est sucé par tout ce qui est étranger au royaume des cieux, au sanctuaire. Des sangsues voraces s'attaquent à lui. Et il ne le reconnaît pas. La vieillesse s'empare de lui. Littéralement, sa chevelure est toute tachetée de gris. Et ce qui est terrible, c'est qu'il ne le reconnaît pas. Quand il se regarde dans le miroir, il fait comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Comme ce voleur qu'on avait pris la main dans le sac. Hein. On lui a mis la main dessus, comme ça. Et il a dit, c'est pas moi. L'orgueil témoigne d'Israël, témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu, et malgré tout cela, Il ne le cherche pas. C'était le drame d'Israël. Ce refus de reconnaître. Mais combien de fois me suis-je battu avec le Saint-Esprit pendant des nuits parce que je ne voulais pas reconnaître. Ah, je me souviendrai toute ma vie de cette soirée, c'était en 1971. Nous étions au service de Dieu en Bretagne, sur la côte du côté Manche, et j'allais régulièrement à une trentaine de kilomètres à l'intérieur des terres pour tenir des réunions d'études bibliques dans des fermes. Et ce soir-là, nous avions une réunion. Et à la fin de cette réunion, où un certain nombre de croyants et de non-croyants étaient réunis, l'un des croyants, membre de notre église, m'a pris très vivement à partie. Et je me suis rebiffé. J'ai riposté. Ensuite, tard dans la nuit, il devait être passé minuit, nous sommes repartis, la voiture était chargée. Et je me souviens très bien de cette nuit aussi parce qu'il y avait un brouillard à couper au couteau. Il m'a fallu m'arrêter à plusieurs reprises pour savoir exactement où j'étais sur le chemin. Mais je peux vous dire une chose, c'est que cette nuit-là, le brouillard qui était dans mon cœur était plus épais que celui qui environnait la voiture. C'était un début de semaine. Je me suis couché et le tribunal a commencé dans mon cœur. Oh, il avait commencé dans la voiture, mais là, dans le silence de la nuit, je me retournais dans mon lit comme une crêpe sur la poêle. Et le Saint-Esprit travaille. Et me dit, Maurice, tu as eu tort.
Mais Seigneur, il a commencé le premier.
Maurice, tu as eu tort.
Mais Seigneur, c'est un jeune blanc-bec tout juste converti à Christ. Et moi, je suis le pasteur.
Tu as eu tort. Toute la nuit. Et je faisais à l'époque ce que je fais de temps en temps. C'est une cure qui ne coûte rien et qui en général est très bienfaisante. Je lisais le livre des Proverbes, un chapitre par jour, 31, donc en un mois. Vous vous remettez en question. Et curieusement, j'étais dans les chapitres qui se succèdent au cœur de ce livre 11, 12, 13, 14, 15, où il est dit que celui qui refuse la réprimande est un insensé.
Et v'là, Maurice, c'est pour toi.
Mais croyez-vous que le petit coq aurait cédé ? Pas. La nuit suivante, ça a recommencé. Maurice, tu as tort. Reconnais.
Mais Seigneur,
ça a duré jusqu'au dimanche. Je suis en train de baisser au point de vue cote. Je ne serai plus dans le hit parade évangélique. Et vous savez ce que Dieu a fait ? Dieu avait tellement d'amour pour moi qu'il s'est arrangé pour qu'un très cher ami au service de Dieu, à 800 kilomètres de là, qui ne savait rien, arrive dans notre église, et que la bouche en cœur, je lui dise, je crois même juste avant que le problème se passe, il était là depuis quelques jours, écoute, tu veux bien dimanche donner le message à ma place. Moi je préside, puis je m'assois, et c'est toi qui causes. Ah, mes amis, ce dimanche matin. Ah, j'ai présidé. Et je me suis assis. Et quand j'étais assis, vous savez, j'aurais aimé avoir un siège éjectable à ce moment-là. Parce qu'alors, tout ce que disait cet ami, de la part du Seigneur, sans me viser, j'avais l'impression que toute l'église me regardait. J'étais devant. Et je suis parti dans mon bureau en larmes. Et je dis, Seigneur, Seigneur, cette fois-ci, je reconnais. Et nous avions, curieusement, une réunion d'église l'après-midi qui était prévue depuis un certain temps.
Et j'ai pu dire à l'église, écoutez, je vous demande pardon. Reconnaître que nous avons de la peine. Et qu'est-ce que nous avons comme mécanisme pour ne pas reconnaître? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de remplir ce qu'on appelle un constat à l'amiable en France, quand vous avez un accident, vous savez? Au lieu d'appeler la police, puisqu'il n'y a que des dégâts matériels, on remplit des papiers. Vous avez déjà fait cela? Ça peut être très tentant de trafiquer la réponse. Alors il se trouve qu'un des détenteurs de police d'assurance automobile avait donné toutes sortes de réponses à la suite de divers accidents, et un assureur a simplement collectionné leurs papiers. Et je vous livre le contenu d'un certain nombre de ces constats à l'amiable où le conducteur explique ce qui s'est passé pour faire jouer l'assurance, n'est-ce pas? Alors écoutez bien. Une voiture invisible a surgi de nulle part, a heurté ma voiture et a disparu. Autre constat. L'autre automobile est entré en collision avec la mienne sans m'avertir de son intention. Troisième constat. Je conduisais ma voiture depuis 40 ans quand je me suis endormi au volant et j'ai fait un accident. Quatrième constat, comme j'arrivais à l'intersection, une haie a surgi brusquement et a obscurci ma vision. Encore un autre constat, je me suis éloigné du côté de la route, j'ai jeté un coup d'œil à ma belle-mère et je me suis retrouvé sur le talus. Ça va en opposition au livre de Ruth, de toute manière, parce que la belle-mère est exemplaire. Ensuite, un autre encore. Le piéton ne savait pas quelle direction prendre, alors je l'ai écrasé. C'est authentique, hein, tout ça. Hein. Un autre constat. Le poteau de téléphone approchait rapidement. J'ai essayé de m'enlever de son chemin, mais il m'a frappé le devant. Encore un autre. Le gars était partout sur la route. J'ai dû donner plusieurs coups de volant avant de le frapper. Et enfin, le dernier de ces constats, la cause indirecte de cet accident était un petit bonhomme dans une petite voiture avec une grande bouche. Hein, nous devons reconnaître que nous sommes forts. Nous sommes forts pour essayer de nous disculper. Nous n'aimons pas reconnaître. Et nous pourrions passer notre soirée à voir, mais combien nous sommes capables d'imagination dans ce domaine. Je pense à ces deux hommes qui travaillaient sur un grand bateau, un transatlantique, et un jour le second, qui ne buvait habituellement pas, s'enivre. Et le capitaine a hissé son second. Et il inscrit dans le journal de bord, le second s'est enivré aujourd'hui. Alors le second vient voir le capitaine et lui dit, écoutez, capitaine, vous savez très bien que c'est la première fois que ça m'arrive. Lorsque nos supérieurs vont lire ce rapport, ils vont penser que ce n'est pas la première fois. Et je risque d'être rayé des services. Est-ce que vous ne voulez pas modifier? Je ne vous demande pas de tricher, mais simplement d'indiquer que c'est la première fois. Et le capitaine simplement de dire, écoutez, ce que j'ai écrit est la vérité et je ne l'effacerai pas du journal de bord. Il avait bien entendu envie que l'autre dégage. Mais il se trouve que quelques jours plus tard, c'était le second qui était en charge du journal de bord. Alors le soir, il a rempli son rapport et à la fin, il a mis « Le capitaine était sobre aujourd'hui ». Alors vous imaginez le capitaine qui arrive et qui dit « Écoutez, s'il vous plaît, vous allez me faire le plaisir d'effacer cela ». Vous vous rendez compte, si les supérieurs l'apprennent, ils vont croire que c'est l'exception. Toute la nuance, n'est-ce pas? Et le second l'a regardé, lui a dit, mais capitaine, ce que j'ai écrit, c'est la vérité. Il n'est pas question que je l'ôte du journal de bord. Ça ne vous est jamais arrivé de dire, c'est la vérité, alors que vous vous conduisiez en véritable jésuite. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Ce qui se passe dans la tête, hein? Nous pouvons avoir des réserves mentales. Nous pouvons penser autre chose. Nous pouvons nous arranger pour dire la vérité, mais en sachant que c'est quand même un peu un mensonge. Ça apparaît comme la vérité. Et quand le Saint-Esprit va se mettre à travailler dans notre cœur et va nous dire, mais écoute, reconnais, nous allons dire à Dieu, mais Seigneur, c'est la vérité. Et nous savons fort bien dans notre cœur que nous avons été calculateurs et que ce n'était la vérité qu'en apparence. Et nous pourrions ainsi donner quantité d'autres exemples. Je pense à cet homme qui conduit sa voiture et qui subitement percute une voiture en stationnement. Les gens s'attroupent et observent en même temps pour voir si le coupable va s'arrêter quelques mètres plus loin. Effectivement, il s'arrête quelques mètres plus loin. Il sort de la voiture. Ostensiblement, il vient vers la voiture vide, percutée en stationnement. Le conducteur n'était pas là. Il sort son carnet, il en arrache une feuille, il écrit quelques mots, il glisse ces quelques mots sous la lame du pare-brise, et il repart. Et puis quelqu'un de plus courageux, de plus osé que les autres, va voir ce qui était inscrit sur le papier. Et il était inscrit à peu près ceci, « Monsieur, je viens d'emboutir votre voiture. » Les gens se figurent que je suis en train d'indiquer mon adresse. Bien entendu, ce n'est pas le cas. Je vous salue. Bonsoir. Ah oui, mais n'est-ce pas? Il fallait passer pour. Je pense à cet homme qui était gardien de barrière à une époque où la nuit, pour protéger les voitures au passage à niveau, on devait aussi brandir une lanterne. Et il était de service une nuit où un accident grave est arrivé. Il y a eu percussion, il y a eu des blessés, il y a eu jugement. Et puisqu'il était de service, il a été appelé à aller au tribunal pour expliquer au juge s'il avait bien rempli son devoir. Et le juge lui a posé toutes sortes de questions. Et à un moment donné, le juge lui a demandé, « Écoutez, monsieur, nous n'avons qu'une question encore à vous poser. Est-ce que vous avez bien brandi votre lanterne cette nuit-là ? » ?»« Mais oui, monsieur le juge, j'ai bien brandi ma lanterne. Oh, »« Bon, écoutez, c'est très bien, d'accord. Votre témoignage nous suffit, vous pouvez repartir. » Et cet homme quitte la salle d'audience. Ses amis l'attendaient dans la cour, se précipitent vers lui pour savoir ce qu'il en était. Il leur dit, « Écoutez, vous ne le direz à personne. Hein. »« Oh, ce que mon cœur battait !» Lorsque le président du tribunal me demandait si j'avais brandi la lanterne cette nuit-là, bien sûr, je lui ai dit oui, mais je n'ai pas ajouté que ma lanterne n'était pas allumée. Ah, mes amis, Dieu a fait les hommes droits, mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Oh, je me souviendrai aussi, longtemps, certainement encore de ce qui m'est arrivé en 1974. Nous avions rempli notre voiture pour nous rendre à l'inauguration d'un nouveau lieu de culte à Rennes, donc la capitale de la Bretagne, à quelques 150 km de notre lieu d'habitation. Nous avions passé un moment extraordinaire avec les églises de l'ensemble de la Bretagne et nous rentrions en chantant allègrement, lorsque subitement ma voix s'est coincée dans ma gorge. Tout simplement parce que, dans le fossé, dans ce qu'on appelle la douve en Bretagne, une sorte de petit renfoncement, j'ai vu surgir sur le bord de la route un casque. Sous le casque, une tête, et sous la tête, un uniforme. C'était un motard de la gendarmerie nationale.
Et ce gendarme a fait quelque chose que je n'aime pas du tout. Il m'a fait signe de m'arrêter sur le bord de la route. Et je savais pourquoi. Je suis sorti de la voiture en tremblant dans mes culottes. Et je me suis retrouvé devant cet homme qui avait le physique de l'emploi. Grand, large, bien engoncé dans son uniforme, qui m'a regardé du haut de ses peut-être 1m90, et moi j'étais tout ratatiné. Et il m'a dit, oh je m'en souviendrai toujours, et alors? Je lui ai dit à peu près ceci, et oui. Oh, je n'étais pas fier. Et ce représentant de la loi m'a alors cuisiné. Il m'a posé un certain nombre de questions. Il m'a dit, mais monsieur, voulez-vous me dire sur combien de distance vous avez franchi la ligne médiane continue?
Oh, 15 à 20 mètres.
Oui, c'est ça. Vous savez, le temps, la durée du temps, c'est très relatif. Ça a peut-être été très court, mais je vous assure que pour moi, c'était très long. Et il a continué comme ça à me poser quelques questions. Et puis de temps en temps, il saupoudrait son questionnaire, là, ce moment difficile, de cette simple petite remarque. Vous savez, monsieur, je vais devoir verbaliser. Et puis il est arrivé le moment fatidique. Il m'a dit, écoutez, donnez-moi vos papiers. Donc, je lui ai donné mes papiers. Il a regardé, m'a regardé. Vous savez, pendant ce temps, dans la voiture, il y avait des gens qui avaient cessé de chanter et qui priaient. Il y a des moments où on prie. Et je pense que ma femme priait en particulier. Et il a vu... Ça tombait bien. Ils ont d'ailleurs changé depuis en France. Dans le temps, on mettait la profession sur la carte grise, la carte de conducteur. Maintenant, on l'a supprimée, sans doute à cause de ce que je vais vous dire. Il y avait marqué pasteur. Il m'a regardé. Son regard s'est un peu adouci. Il m'a dit, bon, écoutez, monsieur, vous pouvez partir. Et puis, il a ajouté ceci. Mais, s'il vous plaît, arrangez-vous pour ne pas aller trop vite au ciel. Vous savez, pendant ce temps, dans la voiture, il y avait des gens qui avaient cessé de chanter et qui priaient. Il y a des moments où on prie. Et je pense que ma femme priait en particulier. Et il a vu, ça tombait bien, ils ont d'ailleurs changé depuis en France. Dans le temps, on mettait la profession sur la carte grise, la carte de conducteur. Maintenant, on l'a supprimée, sans doute à cause de ce que je vais vous dire. Il y avait marqué pasteur. Il m'a regardé. Son regard s'est un peu adouci. Il m'a dit, bon, écoutez, monsieur, vous pouvez partir. Et puis il a ajouté ceci. Mais, s'il vous plaît, arrangez-vous pour ne pas aller trop vite au ciel. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous êtes pasteur, hein? Bon, prenez-le pour vous. Je suis rentré dans la voiture. Mais j'aimerais vous dire tout d'abord ce que j'ai eu envie de faire. Vous savez ce que j'ai eu envie de faire avant de rentrer dans la voiture? J'ai eu envie de lui sauter autour du cou et de lui donner des gros bisous, comme on dit chez nous. Ouais. Je n'ai pas osé. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, il m'aurait donné le PV, n'est-ce pas? Mais cet homme qui incarnait la loi s'est transformé en incarnation de la grâce. Mais pendant que j'étais là au volant de ma voiture ensuite et que je faisais très attention, Dieu m'a alors interpellé. Et il m'a dit, Maurice, est-ce que tu as réalisé pourquoi ce motard t'a posé toutes ces questions? Et j'ai dit, oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Si un seul instant j'avais triché, il me l'aurait mis, mon PV.
cet homme a voulu me sonder. Il était libre de le mettre ou de ne pas le mettre. Mais il était fin psychologue. Il m'a sondé. Il voulait voir si j'étais prêt à reconnaître toute la vérité. Sans tricher. Sans essayer de m'excuser. Sans essayer de me défendre. Sans prendre qui que ce soit à partie. Et alors seulement. Librement. Sans être forcé par qui que ce soit. Il est devenu un autre personnage. La loi a été comme un pédagogue pour conduire à Jésus-Christ, qui incarne la grâce. Un pédagogue, à l'origine, l'esclave, qui a emmené l'enfant du maître vers le précepteur et qui ensuite le ramenait à la maison. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Jésus-Christ. Mais il faut reconnaître que de masques, que de manque de transparence. 1 Jean 1:8-10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Sa parole, nous le faisons menteur. C'est-à-dire que nous commençons à trafiquer la parole de Dieu. Nous commençons, comme l'a dit quelqu'un, à sortir un texte de son contexte pour trouver un prétexte. Nous manipulons les Écritures. Parce que vous pouvez que par malhonnêteté et refus de reconnaître, nous sommes capables de faire dire à la Bible n'importe quoi pour nous justifier. Et c'est d'ailleurs pourquoi, et je l'apprécie beaucoup, Francis Schaeffer écrivait dans ce livre remarquable, La mort dans la cité, ces quelques lignes, « L'Église de notre temps a besoin d'une réforme, d'un réveil, et d'une révolution constructive. Certains voient une opposition entre les mots réforme et réveil. C'est une erreur, car ils sont tous deux en étroit rapport avec le verbe restaurer. Réforme décrit une restauration de la doctrine dans sa pureté, tandis que réveil se réfère à une restauration dans la vie du chrétien. Réforme implique un retour aux enseignements de l'Écriture. Réveil signifie le retour d'une vie à sa juste relation avec le Saint-Esprit. Les plus grands moments de l'histoire de l'Église se sont vérifiés quand les deux restaurations ont marché de pair. L'Église est revenue à la saine doctrine et conjointement les chrétiens ont fait dans leur vie l'expérience de la puissance du Saint-Esprit. Il ne peut y avoir de vrai réveil sans réforme et une réforme sans réveil reste incomplète. La combinaison d'une réforme et d'un réveil serait révolutionnaire à notre époque. Révolutionnaire pour nos vies personnelles de chrétiens, révolutionnaire pour l'Église libérale, révolutionnaire encore et d'une manière très constructive pour l'Église évangélique orthodoxe. Et le problème de notre temps, c'est que les uns veulent un réveil sans réforme, sans retour aux Écritures. Nous voulons un réveil tout en voulant continuer à manipuler la parole de Dieu pour justifier notre péché. Pendant que les autres s'enferment dans une orthodoxie morte et se refusent à remettre leur vie en question. Nous avons besoin des deux dans nos vies. Et nous ne pouvons pas avoir les deux s'il n'y a pas ce premier R du réveil. Je dois d'abord reconnaître. Spurgeon, le prince des prédicateurs, disait « Ce qu'il nous faut, c'est moins de vernis et plus de vérité. » Et j'ai été interpellé par cette autre remarque « Que se passe-t-il quand des chrétiens masqués s'assemblent ?» Ben, ce sont leurs masques qui se rencontrent, eux-mêmes étant bien décidés à rester en sécurité derrière leurs manœuvres protectrices. Notre premier objectif est d'éviter d'être percé à jour.
de paraître fréquentable, de négocier à partir d'une position de force. Quand des chrétiens se fréquentent en restant derrière des masques défensifs, ils éprouvent une communion de masque à masque. C'est comme si des amoureux s'embrassaient à travers une vitre. Après avoir bavardé de derrière nos défenses, nous nous sentons insatisfaits, éloignés, insensibles, superficiels, mais en sécurité. Cependant, le prix de la sécurité est élevé. Établir des relations à partir d'une attitude de défense conduit à une communauté de surface, un ensemble de relations sans profondeur qui ne peut pas plus toucher le moi intime qu'un galet ne peut troubler l'océan. Mes amis, nous avons trop d'églises qui sont bon chic, bon genre. Parce que nous ne voulons pas reconnaître. Et nous n'avons pas essayé ce soir à essayer de penser à X ou Y autour de nous. Seigneur, commence par moi. C'est ce que disait l'homme de Dieu dont Dieu s'est servi pour démarrer le réveil du Pays de Galles au début du siècle. Seigneur, commence par moi. Cette propension au masque, cette manière dont nous avons d'essayer de nous revêtir d'un manteau de respectabilité pour que les autres ne voient pas ce que nous sommes en réalité. Je pense à cette caricature, à peine, qui rejoint un peu les caractères de la bruyère. Imaginez ce couple de croyants évangéliques qui est dans ses murs et le frère et la sœur, monsieur et madame, se disputent. Ils s'envoient des noms d'oiseaux. Peut-être même de temps en temps un objet traverse-t-il l'air dans la pièce qu'ils occupent. Voilà qu'alors qu'ils sont en plein conflit, on sonne à la porte. Ah ! Madame se précipite vers le seul endroit d'où l'on peut voir à l'extérieur sans être vue. Et elle découvre, aux surprises, que c'est un couple de l'église, de la même église qui est en visite. Alors, on va aligner les records du monde de vitesse pour aller se pomponner, se refaire une petite beauté, redresser le nœud de cravate, raffermir le chignon qui s'est déplacé, etc. Et on se retrouve, mes chers amis, comme au plus beau jour du premier amour, se donnant le petit doigt long là, dans le couloir, ouvrant la porte avec le plus grand des sourires et disant « Mes chers amis, que nous sommes heureux de vous voir ! Faites-vous donc prenez donc la peine d'entrer. » Et on s'installe au salon. On a installé le couple de ses chers amis en visite sur la banquette centrale. L'épouse qui accueille est sur le fauteuil, là d'un côté, le mari est de l'autre côté. On peut comme ça par avion communiquer quelque peu. Et on démarre un entretien qui évoque la pluie, le beau temps, le culte de dimanche dernier, la prédication, le rôle des anciens, l'état de l'église. Ça se prolonge dans une tasse de thé ou de café. Ça se termine par une prière des plus orthodoxes. On redonne le petit doigt et on raccompagne le couple. La porte se ferme et deux pièces de théâtre commencent. Une dehors, une dedans. Dehors, la dame de sa voix la plus suave dit « Chérie. »
« Ouais. »
« Chérie, écoute-moi. »« Ouais. » « Tu as vu ?»«
Quoi ?»
Tu n'as pas vu comme ils s'aiment bien. Tu as vu, ils se donnaient la main tous les deux, le petit doigt. Ça fait si longtemps qu'on ne l'a pas fait. Et pendant ce temps, dedans, vous savez ce qui se passait dedans Ça avait recommencé. De plus belle. C'est pas aussi horrible que ça. Nous devons être lucides. Je ne dis pas que reconnaître,
c'est faire du naturisme. C'est faire du nudisme. Dieu nous demande la sobriété lorsque nous reconnaissons. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans toute la turpitude de la malice de notre cœur. Nous pourrions être occasion de chute. Mais pourquoi est-ce que nous mettons des masques? Pourquoi est-ce que le dimanche matin, c'est un moment très crucial, hein, c'est aussi un moment stratégique. Surtout quand on a une ribambelle d'enfants à la maison. Hein. Moi, j'appelle le dimanche matin peau de banane. Parce que c'est là que, juste avant de partir au culte, il y a une chaussette qui manque, le lait qui déborde et le téléphone qui sonne en même temps. Hein. Et alors la température monte, la tension monte, les mots doux deviennent un peu plus aigres. Hein. Oh, les enfants en prennent. Hein. Et les parents s'accrochent. Et puis, le moment vient où on se précipite dans la voiture. Puis la voiture se dirige peu à peu vers le lieu de rencontre. Et les enfants qui sont assis derrière commencent à croire au miracle. C'est à peine s'ils ne sont pas obligés de se frotter les yeux, croyant voir une auréole au-dessus des têtes de leurs parents et des ailes qui commencent à pousser dans le dos. Parce qu'il y a quelque chose qui change peu à peu dans la relation entre papa et maman. Plus on approche du lieu de rencontre, plus ce sont des anges qui sont devant, n'est-ce pas? Et alors, quand on arrive dans la dernière rue, vous savez, celle où toutes les voitures se retrouvent, la dernière, là, avant d'arriver, il y a les autres, hein? Alors là, c'est extraordinaire. Et on rentre au culte comme le plus grand des saints, n'est-ce pas? Comment allez-vous? Mais très bien, cher ami. Nous n'aimons pas être des pécheurs graciés. Reconnaître. Naomi n'a pas cherché à masquer la vérité aux autres. Le réveil personnel, c'est la fin de nos excuses. C'est la fin de nos euphémismes. Cette manière que nous avons de dédramatiser ce qui est quand même grave, puisque mon péché a crucifié mon sauveur. J'ai peut-être eu tort. Tu as eu tort. J'ai peut-être eu tort. Nous te demandons pardon. C'est vrai qu'il y a des moments où nous nous identifions au peuple tout entier pour plaider coupable avec nos frères et sœurs. Mais il y a des moments où, au pied de la croix, je dois savoir dire « je ». Nous te demandons pardon pour nos faiblesses. Hein? C'est un peu mieux que péché quand même. Hein? Les faiblesses, c'est excusable. C'est comme cela que nous sommes. Oh, si Dieu nous visitait ce soir et que nous nous rendions compte que le sang de Jésus-Christ ne nous purifie pas de nos excuses, mais de nos péchés. Surtout que, nous l'avons lu, vivre avec un masque, c'est se condamner à cette sorte de schizophrénie, n'est-ce pas, de tension dans notre personnalité, parce qu'il faut cacher la personne. Et c'est ce qui fait que nous devenons irritables, susceptibles, que nous explosons ensuite si facilement. Que Dieu nous visite dans cette dimension. Mais c'est là le grand tournant de ce livre de Ruth. Naomi reconnaît. Elle ne soigne pas son moi. Et nous avons tendance à le soigner. Ce moi. Vous savez comment la maréchale Booth appelait ce moi? Elle parlait de l'hippopotame moi. Dans ce livre remarquable d'André Adoul, Sa présence sortie récemment,
Il dit à un moment donné, le moi qu'on s'emploie à éliminer rebondit toujours comme un bouchon lâché dans l'eau. Plus on veut comprimer le moi, et plus il se montre. Mettez-le au pilori, et le voilà sur le trône. Il est si tortueux qu'il réussit même à tirer orgueil des assauts qu'il subit lorsqu'on tente de le déloger. La seule chose que Dieu me demande, c'est de reconnaître. Ça commence par là. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce que voyez-vous, il est des croyants qui ont la vertu de la reconnaissance, de celle-là, pas de l'autre. C'est-à-dire qu'ils peuvent relativement facilement reconnaître. Mais qui érigent ce fait de reconnaître en divinité. Ils reconnaissent, oui. Et ils ont le sentiment que reconnaître suffit. Et ils reconnaissent d'une telle manière et avec une telle persistance que reconnaître devient une sorte de fuite devant le réveil dans toutes ses dimensions. C'est là la subtilité de la puissance des ténèbres. Lorsque nous avons compris que nous devons reconnaître, l'ennemi essaye de s'arranger pour que nous devenions des gens qui reconnaissent facilement. Mais qui n'allons pas plus loin. On peut se vanter de reconnaître et soigner son moi tout en reconnaissant. Heureusement, Naomi est allée plus loin. Et ce sont les versets 6 et 7 qui sont éloquents. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Vous avez remarqué tous ces verbes? Tous ces verbes de rupture. Quatre verbes d'action, quatre verbes de rupture. Rompre. Nécessité de couper avec ce qui est moabite. Je pense à un remarquable livre sur le réveil au Rwanda notamment, et l'auteur décrit le réveil en termes qui concordent avec l'Afrique, mais qui sont tellement suggestifs pour nous. Si le réveil est semblable à un feu de brousse africain, ardente et s'étendant sur le flanc des collines, tout ce qui se cache dans l'herbe haute, les serpents et les rats doivent fuir pour leur vie. Le réveil est comme l'orage porteur d'une pluie longuement attendue, qui arrive à la fin de la saison sèche et apporte la vie nouvelle à la savane poussiéreuse. Mais, avant que ne tombe la pluie vivifiante, des nuages apparaîtront, des arbres se courberont et tomberont sous le vent. Le réveil est comme une fleur splendide et délicate qui ne peut prospérer et fleurir que dans une terre préparée. Le sol est le cœur livré et le jardin regarde en haut vers le soleil, mais toutes les racines d'amertume doivent être journellement arrachées. Je ne sais s'il vous est arrivé, si cela existe ici en Suisse, mais il m'est arrivé d'entrer dans certaines cabines téléphoniques public, la nuit tombée, pour passer un coup de téléphone. J'essayais de chercher dans mon carnet d'adresses et il faisait nuit. Je disais quand même, ce service des téléphones n'est pas capable d'avoir installé de la lumière. Tiens, mais si, il y a un plafonnier, mais... Ah ben encore, ils ne savent pas remplacer leurs ampoules grillées. Jusqu'à ce que je réalise qu'il suffisait de fermer la porte. Fermer la porte. Il peut arriver qu'on ait à monter au 7e, 10e ou 15e étage en ascenseur. Alors, on est bien content d'avoir l'ascenseur. On s'installe dans l'ascenseur, on appuie sur le bouton et ça ne monte pas. Très désagréable. Alors vous sortez de l'ascenseur et juste au moment où vous vous apprêtez au grand sacrifice,
quelqu'un de la maison entre dans l'ascenseur. Vous la grippez au passage, vous dites, mais ne montez pas, ne prenez pas l'ascenseur, il est en panne. Comment ? Il y a 30 secondes, là, je suis descendu à un autre endroit, je viens tout juste de l'utiliser. Puis il vous entraîne. Vous êtes à ses côtés, vous régalez, vous dites, ah, il va être ridicule tout à l'heure. Il appuie sur le bouton, poup, ça monte. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Monsieur, comment est-ce que vous avez fait ? Ah, vous n'avez pas regardé ? Il y avait deux portes qu'il fallait fermer parce qu'il y avait deux paliers. Vous en avez bien fermé une, mais l'autre n'était pas tout à fait bien fermée. Il faut fermer les portes. Il y a 2 ans, je traitais de ce thème à Paris dans un congrès. Et la scène de la salle sur laquelle je parlais avait un petit cabinet toilette qui battait peut-être le record du monde par son étroitesse. C'était tout un art de s'y faufiler. Mais quand on était entré dedans, vous fermiez la porte et vous étiez dans l'obscurité. Et vous tâtonniez, n'est-ce pas, en cherchant le bouton, éventuellement vous sortiez pour voir à l'extérieur, pas de bouton ni dedans ni dehors. Alors vous êtes inquiet dans ces moments-là, hein. C'est très insécurisant. Et alors finalement, vous fermez le verrou et c'est quand vous avez fermé le verrou que la lumière s'allume. Oui, c'était comme ça. Il y a des actes qui changent tout. Il y a des actes dans nos vies qui permettent à la lumière de jaillir. Pensez à l'histoire de Jonas. L'histoire de Jonas, c'est l'histoire d'un réveil personnel. Une désobéissance précise qui amène quelqu'un à descendre, descendre, descendre et descendre encore jusqu'à fond de cale où il s'endort. Et puis là, au sein de la tempête, on vient le secouer, tant son sommeil est profond, le sommeil de la fuite, n'est-ce pas ? Et il nous est dit, dans le texte de Jonas 1, que Jonas a raconté à ses marins païens qu'il fuyait l'Éternel. Il a reconnu. Et c'est parce qu'il a reconnu que le réveil a pu commencer à montrer le bout de son nez. Mais il ne s'est pas arrêté là. Parce que c'était insuffisant. Il avait reconnu, mais la tempête a continué. Jusqu'au moment où Jonas a dit, en tremblant certainement, avec des trémolos dans la voix, « Écoutez, il n'y a qu'une seule solution, hein. Je vais me mettre en maillot de bain, vous me jetez par-dessus bord. » C'était la seule solution. Il fallait qu'il y ait rupture. Rupture. Et là aussi, dans le domaine de la rupture, l'ennemi va contester. Et il va s'arranger pour que nous ayons des pis-allers de rupture ou des demi-ruptures. Je pense à ce gosse de 9 ans qui avait l'habitude du vol et qui désire vivement être guéri de sa manie de voler. Et puis il prie Dieu en disant, « Mon Dieu, j'en ai assez d'être un voleur. Avec ton aide, je m'engage aujourd'hui. Je ne volerai plus que 5 francs par semaine. » Nous voulons souvent être libres sans être privés de ce qui nous tient captif. Je pense à Josué, dans cette terrible défaite d'Aï qui a suivi de près la victoire de Jéricho. Dans Josué, au chapitre 7, dans les versets 6 à 11, nous avons une prière de Josué qui dit ceci. Josué déchira ses vêtements, se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr ? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis ?
Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont, ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ?
Quelle prière ! Et pourtant,
vous avez remarqué la réponse de l'Éternel ? L'Éternel dit à Josué, lève-toi ! Mais pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance, etc.
Voyez qu'il existe des prières répréhensibles. On peut se réfugier dans la prière pour ne pas rompre.
On peut même, mes bien-aimés, se réfugier dans la prière pour le réveil,
pour tranquilliser notre conscience. Si cela pouvait nous éviter de rompre. Et Dieu de nous dire dans notre cœur, mais lève-toi, pourquoi est-ce que tu restes ainsi dans les supplications ?
Tu sais bien qu'il y a un vrai problème.
Ainsi, Naomi aurait pu reconnaître et prier toute sa vie et de tout son cœur en Moab, sans que cela change quoi que ce soit.
Elle aurait pu même mourir en Moab
avec Elimelech après avoir organisé des réunions et des réunions de prière. Ce qui a fait la différence, c'est l'acte de rompre.
Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.
De Chroniques 7, 14. S'il se détourne.
S'il y a rupture. Alors il me reste simplement, parce que c'est important, je ne peux pas m'arrêter ici, mais rassurez-vous, nous allons nous arrêter rapidement. Mais je ne peux pas m'arrêter ici. Nous sommes obligés de laisser pointer le troisième R. Parce que je ne voudrais pas que ce soir la puissance des ténèbres prenne avantage de ce qui a été dit. Parce que nous pourrions être très découragés ce soir. C'est pas évident de rompre. Ça peut être terriblement difficile.
À moins que...
Et le diable s'arrange toujours pour nous focaliser sur la rupture. Si nous reconnaissons,
le Seigneur va nous pousser à aller plus loin. Hein? Je vais dire, écoute, il faut maintenant que tu fasses le deuxième pas.
Mais l'ennemi va s'arranger pour que nous nous cristallisions sur la rupture.
Là où le Saint-Esprit ne dissocie pas ces quatre R. Vous comprenez maintenant l'importance. Tout cela se tient.
Il va m'aider, le Saint-Esprit.
Je romps parce que je peux revenir.
Ce R central du réveil, revenir. Je ne romps pas pour rompre. Nous pouvons diviniser la rupture tout comme nous pouvons diviniser le fait de reconnaître. Nous pouvons même nous installer dans une sorte de christianisme centré sur la rupture. Et il existe actuellement une tendance parmi d'autres, mais que nous vivons parfois aussi dans notre propre vie, qui est une sorte de tendance intégriste, toujours centrée sur la rupture. Une sorte de sainteté négative, permanente, une sorte de nombrilisme de sainteté, où l'on est continuellement sur la défensive et continuellement il semble qu'on est invité à rompre, rompre, rompre et rompre encore. Au point même que on finit par s'installer dans une sorte de ghetto de rupture. Et lorsque ce phénomène devient ecclésial et non plus personnel, l'église locale n'est plus locale, elle est bocale. Elle devient un véritable bocal, n'est-ce pas ? Un véritable ghetto, et c'est tragique.
Voyez combien, dans ce processus du réveil, nous pouvons être arrêtés en chemin. Là, alors, nous touchons à la partie là, la plus extraordinaire, ce qui fait que j'ai soif de vivre le réveil. Qu'est-ce qui a fait que Jonas a pu sauter à l'eau, être poussé même dans l'eau? On l'a aidé. On a parfois besoin d'être aidé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a fait cela? Mais c'est parce qu'il le connaissait, son Dieu. La suite, c'était l'affaire de son Dieu. Mais son Dieu a fait quelque chose à ce moment-là. Hein? Puisqu'il avait reconnu, puisqu'il rampait, Dieu a fait le miracle. Hein? Il a envoyé le poisson, l'instrument de salut, le sous-marin là qui récupère. Hein? Oh, combien je bénis Dieu, parce que Dieu fait tout pour favoriser la rupture. Ce qui favorise la rupture, c'est ce qui m'attire et c'est ce qui m'attend. Je veux rompre dans la perspective de la grâce. Non pas parce qu'il y a une sorte de couperet, de guillotine de Dieu qui va me tomber dessus, n'est-ce pas? Mais non, le Père m'attend. Il guette à la sortie du village, tout au long de la journée. À l'heure la plus chaude, il est encore là, et il regarde de ses yeux fatigués au loin pour voir si le Fils a rompu, après avoir reconnu s'il s'approche. Voilà ce qui faisait que le Fils était rendu capable de rompre à cause du caractère du Père. Dieu avait visité Bethléem. C'est ce qui est dit dans le texte, n'est-ce pas? L'Éternel avait visité son peuple. Une version dit, le Seigneur s'était occupé de son peuple. C'est parce que Dieu avait visité que le cœur de Naomi a été bouleversé. Elle s'est dit, non, je ne peux pas ne pas être de la fête. Le Seigneur est un Seigneur de grâce. Le pardon de Dieu est intervenu. La pluie s'est remise à tomber dans mon village. Cette pluie, elle est pour moi. La pluie de la grâce est pour moi. C'était quelque chose d'absolument irrésistible. C'est ce que Samuel disait au peuple d'Israël dans 1 Samuel 7, 3, 4. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, alors ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Vous revenez, alors ôtez. Voyez combien ces deux dimensions se tiennent. Alors ce soir, n'acceptez pas le découragement de l'accusateur qui essaye de vous présenter Dieu dans sa sainteté comme une sorte de Robespierre, de caricature, guillotine prête à fonctionner. Non. Oh, je bénis Dieu pour le centre du message du réveil dans les Écritures. Dieu m'a rendu capable de rompre combien de fois déjà dans ma vie, parce que je savais que quelqu'un m'attendait. Alors demain soir, nous allons parler du retour. Parce que le réveil est toujours un retour à un endroit que l'on a quitté. À une personne que l'on a quittée. Et demain soir, nous allons voir que Naomi est revenue dans trois dimensions. Et qu'il y a toujours dans les Écritures, dans le processus du réveil, un retour dans trois dimensions. Et elles sont là, dans le texte, pour nous encourager. Dites-le déjà ce soir au Seigneur. Seigneur, je mets bas le masque. Je veux reconnaître. Je veux cesser de contester, de discutailler. Je veux reconnaître. Et Seigneur, Tu m'attends. Je veux revenir. Et c'est parce que je veux revenir vers quelqu'un qui m'attend que je prends la décision de rompre avec sa force. Son appel est irrésistible. C'est lui qui me donne la force de quitter. Tant sa grâce, ses compassions et son amour sont des aimants qui m'atteignent au plus profond de mon cœur. Puisque tu m'attends, je viens. Et Seigneur, maintenant, oui, je romps avec ta force. Nous voulons simplement prier. Père, par certains côtés, ta parole est un livre profondément désagréable. Parce que tu es sans complaisance avec le péché. Tu nous décris sans fioriture. Tu nous dépeins sans fard, sans cosmétique. Et le réalisme tellement fort de ta parole sur notre état de pécheur nous dérange. Nous aimerions tant, si souvent pouvoir présenter une respectabilité. Et ton esprit travaille pour faire sauter ces murs que nous érigeons entre les autres et nous. Seigneur, merci pour le travail du Saint-Esprit qui nous montre notre vraie nature, non pas pour nous décourager, non pas pour nous enfoncer, mais pour notre salut, pour notre libération, pour notre restauration, pour notre reconstruction, pour que nous puissions respirer plus librement, connaître cette paix qui surpasse toute intelligence que toi seul peux donner. C'est pourquoi nous te remercions, parce que ta parole est aussi un livre extraordinaire d'espérance pour maintenant. Merci, merci Seigneur, de pouvoir rompre parce que tu nous attires vers toi. Nous sommes invités à revenir vers celui qui est toujours prêt à pardonner, à purifier, à laver, à oindre tout à nouveau pour que notre coupe déborde. Seigneur, continue ton travail dans chacun de nos cœurs. Sois le vainqueur en nous. Prépare-nous pour cette dernière soirée de demain. Accompagne-nous dans nos maisons, aussi dans le secret de nos conversations avec toi, peut-être dans le secret de notre chambre, de notre bureau, de la cuisine, dans cet endroit où nous allons pouvoir te laisser parler à notre cœur et où nous allons pouvoir te dire tout ce que nous n'avons pas voulu te dire jusqu'ici. Seigneur, merci pour l'action de ton esprit au milieu de nous, individuellement, dans chacun de nos cœurs. Nous te bénissons de ce que tu es fidèle aux promesses concernant l'efficacité de ta parole. Gloire te soit rendue. Nous t'adorons de tout notre cœur en Jésus-Christ. Amen.